grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons retrouver Milo Delage. Et au cours de cette émission, nous entendrons un beau document, Manitas de Plata, avec José Reyes, qui était au Carnegie Hall, rien que ça. Nous écouterons aussi une chanson qui s'appelle « Écoute-moi, Gadjo ». Je ne sais pas qui la chante, excusez-moi. Nous entendrons aussi Daniel Guichard. Et voilà, place à Milo Delage.
Thank you.
si je comprends bien, la sédentarisation apporte une perte des traditions.
Oui, bien sûr. Et ensuite, chez nous, nos enfants, c'est sacré. Nos parents, c'est sacré. On ne mettra jamais nos parents en maison de retraite. Hein. Celui qui le met, il est montré des doigts. Hein. Dans les voyageurs, ils savent ça, d'ailleurs. Hein. Mais dans la sédentarisation, ben, maintenant, ça rentre dans les mœurs. Quoi, ouais. Ils ne vont plus garder leurs vieux chez eux, ils vont les laisser dans les maisons de retraite. Ils ne vont plus les soigner. Quoi. Ben, ça, ce n'est pas bon non plus. On perd ça. Cet esprit de famille, là, comme je t'expliquais tout à l'heure, ces familles qui se sont regroupées ensemble, qui ne se parlent plus, qui, au moment des fêtes de fin d'année, ne mangent pas ensemble, chez chacun de leur côté. Ben, ce n'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Voilà. J'ai encore donné d'autres exemples. Cet hiver, je vais au Mont dans la Sarthe. J'ai un de mes frères qui a un terrain, qui est un terrain nu, donc je stationne dessus. C'est tous des voyageurs au Mont, là. Ils sont peut-être, je sais pas, il y a peut-être 150 ou 200 familles. Je les connais pratiquement tous. J'ai été en voir quelques-uns. Ils sont dans leur terrain, c'est entre eux. Ils viennent pas te voir. Par contre, comme tu voyages, que tu es un groupe de familles, tout le monde se parle. Le soir, on fait une grillade, on va peut-être mettre de la musique et tout. Et tout, et tout le monde vit en communauté. Et c'est ça la vie que je veux, moi. C'est pas être chacun de son côté, sans parler aux autres, et être jaloux parce que l'autre, il a un beau terrain ou qu'il a mis... En sud-voyage, non. Comme on est tous ensemble, là, on n'est pas jaloux de l'un et l'autre. Et là, toi, je te vais te montrer des photos, regarde. Toi, c'est ça, le voyage. Bon, les auditeurs ne l'écoutent pas, mais regarde, toi, c'est ça, vivre ensemble, toi. Ça, c'est tous ensemble. Ouais.
Alors, Milo est en train de me montrer des photos où il y a des regroupements de caravanes. Là, sur la photo qui me montre, il y a peut-être, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de caravanes. Et avec des très belles montagnes autour, d'ailleurs.
Nos enfants, là, ils s'amusent jouer ensemble.
Voilà, non, et puis effectivement, les enfants ne sont pas devant la télé.
voilà, c'est ça, c'est derrière ça, c'est vilain. C'est pas beau de vivre comme ça, en communauté, là, tous ensemble. Comme c'est propre, comme tout le monde se tient bien. Hein.
Et alors, on va arrêter les photos parce que la radio, ça passe pas très bien, tu vois.
C'était pour faire comprendre.
Oui, non, bien sûr.
Alors, je vais juste dire ça pour ceux qui sont auditeurs. Vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est France Liberté Voyage.fr.
Voilà, une très bonne initiative. Et alors, je vais revenir aux conditions de vie du voyage. Parce que nous, les gadgets, on prend la route, enfin certains d'entre nous prennent la route à la belle saison, hein, au mois d'août, au mois de juillet, voire au mois de mai pour les retraités. Mais il y a quand même des saisons où c'est beaucoup moins agréable. Alors comment ça se passe justement l'hiver ?
Alors l'hiver, c'est bien pour ça que dans l'évolution de la vie, il y a beaucoup de voyageurs, qui, comme je disais tout à l'heure, qui ont gagné un peu leur vie et puis qui ont acheté un terrain et voire fait une petite construction pour y vivre. Alors c'est ça qu'il y a beaucoup de voyageurs qui se sédentarisent quelques mois de l'hiver, on va dire. Bon, ils rentrent, je veux dire, novembre, décembre, janvier, février, mars, 4-5 mois et après ils repartent au printemps. Là en ce moment, on est au mois de mai, pratiquement tous les voyageurs qui pouvaient sont partis de leur terrain et ils voyagent. Quoi, hein, ils ont repris le voyage. D'ailleurs, moi qui suis un responsable du groupe, j'ai beaucoup de familles qui m'appellent pour me rejoindre. Théo, Milo, est-ce qu'on peut venir, c'est ci, c'est là. Donc, comme je suis quelqu'un qui connaît, que je connais. Alors, l'avantage que j'ai aussi d'avoir voyagé, qui est très important, c'est que je suis en France, je connais tous les voyageurs de France, pratiquement. Tu me parles de tout ça, si je vais à Nantes, je connais les voyageurs, si je vais au Mans, je connais les voyageurs, si je vais à Lille, je connais les voyageurs, si je vais à Paris, je connais les voyageurs, si je vais à Strasbourg, je connais les voyageurs. Je connais tout le monde, pratiquement. Dès que tu me dis une famille, je vais même dire quelles familles qui sont dans ces régions-là. Donc, comme ils ont besoin des fois de stationnement et qu'ils veulent venir dans la région où je suis, puisque, comme j'ai créé cette association France Liberté Voyage et que j'ai à peu près une vingtaine de responsables de groupe, dès qu'il y a un endroit qui est ouvert, bon, ça ne me dérange pas qu'ils viennent nous rejoindre, au contraire, si ça les arrange. Voilà. Et ils savent que nous, par rapport au stationnement que l'on fait, en respectant les communes qui nous accueillent, hein, toujours, c'est très important. Ils auront l'eau, ils auront l'électricité, ils payeront un petit peu l'eau, l'électricité, et puis le ramassage des poubelles. Et voilà, on donne des bons exemples. Et ça arrange tout le monde, quoi, en définitive. Mais il fallait se prendre en main, et qui c'est qui pouvait mieux le faire que nous, hein? Qui c'est qui peut mieux parler de nous que de se responsabiliser, sans dépendre des autres? Donc, France Liberté Voyage est une association complètement libre. Hein? L'UFAT est complètement libre, parce qu'on n'a pas voulu que... On a voulu se prendre en main, mais sans travailler avec les gadgets, c'est pas un problème. Au contraire, hein, on est fait pour travailler ensemble. Mais en aucun cas, vous payez pas à notre place. Donc c'est pour ça que je me suis investi et ça a pris forme et maintenant c'est officiel quoi. Alors c'est vrai que je me suis investi tout en étant itinérant, je suis quand même membre de 5 commissions consultatives. Hein. Je suis membre de la commission départementale de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, des Deux-Sèvres, du Rhône. Et voilà, donc je suis représentatif dans toutes ces commissions départementales et aussi à la commission nationale, qui me permet justement de faire bouger les choses aussi en étant présent dans ces commissions-là. Et c'était important que nous, en tant que gens de voyage, on soit présents dans des instances où ça se décide de notre avenir.
Mais justement, je ne sais plus qui disait que quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Est-ce que les commissions auxquelles tu participes, tu as l'impression qu'il y a une réelle écoute de la part des gouvernants ?
Alors, je vais te dire, franc et toi, c'est la Commission nationale ne nous a jamais écoutés. On a un président qui s'appelle Pierre Hérisson, qui nous fait venir régulièrement, mais qui n'est même plus écouté non plus, parce que ça se passe à l'auditorium des maires de France, et la dernière réunion, il y a 40 personnes qui doivent être là, et en définitif, il n'y en avait plus que 15, quoi, voilà. Donc, si tu veux, c'est toujours du discours, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et en plus, le président de la Commission consultative nationale, Pierre Hérisson, a une double étiquette, c'est-à-dire qu'il était vice-président de l'Association des maires de France. Alors, on n'a jamais bien compris pourquoi qu'un président de la Commission consultative nationale des gens du voyage soit aussi vice-président de l'Association des maires de France. Quoi, voilà. Et donc, ça n'a pas passé. Alors, c'est ce qu'il va y avoir. D'ailleurs, la Cour des comptes a fait un rapport par rapport à justement cette commission nationale. Il faut une refonte en profondeur de cette commission nationale. C'est ce qui va se faire, je pense, dans les mois qui va suivre là. C'est-à-dire qu'au lieu d'y avoir 40 membres, il n'y en aura plus que 15, mais avec des membres actifs, quoi, qui soient des gens de voyage, des responsables de préfecture et des responsables de mairie. Et on espère que ça va se faire.
Écoute bien, gâteau, auprès du feu, y a du soleil dans ma guitare. Chante avec moi, gâteau, danse avec moi, gâteau, c'est la beauté et la fierté de ma bohème. Je vais là où le vent m'emporte, quand le destin frappe à ma porte, là où la chaleur est plus forte. J'ai le sang chaud des Romanos. J'aime la vie dans ma roulotte, au son des chevaux qui galopent. J'ai le cœur qui bat, mon bon gajo. Regarde-moi, gajo, parle avec moi, gajo. Je te dédie cette chanson à la tzigane. J'ai dans le cœur, gajo, tant de bonheur, gajo. Sur les chemins, la fleur aux dents qui m'accompagne. Même si je t'achine sans cesse, avec le cœur plein de tendresse, c'est ça l'instinct des romanesses. Sur mon drapeau, y a un igloo. Je prie chaque jour la Madone, la liberté que Dieu nous donne. Voilà ma vie, mon bon gajo. Voilà ma vie, mon bon gajo. Étoile, à l'abri de tant de cavales, des
c'est par le chant des cigales et par l'eau vive des ruisseaux. Comme les taureaux de Camargue, j'ai gardé mon instinct sauvage. Voilà ma vie, mon bon gajo. Voilà ma vie, mon bon gajo. Voilà ma vie, mon bon gajo. Voilà ma vie, mon bon gajo.
Si j'ai bien compris, tu milites pour tout ce qui est discrimination, en particulier donc le carnet de circulation a disparu, l'autre dont j'oublie toujours, le livret de circulation, tu milites pour qu'il disparaisse, et que vous, gens du voyage français, vous soyez reconnus citoyens français comme les autres. Mais parallèlement à ça, il y a donc tout ton militantisme aussi pour que les municipalités respectent leurs engagements, à savoir créer des terrains. Mais si il y a plus de livret ni de machin, les terrains, alors comment ça va se passer? Moi, Gadget, à ce moment-là, je pourrais m'installer sur les terrains?
Tout à fait. Tout à fait, du moment que c'est un mode de vie, c'est pour ça que français itinérant, nous ça nous dérange pas, on doit pas diviser les gens, parce que si on fait des lois spécifiques à une catégorie de la population française, ça divise les gens, ouais. C'est un mode de vie, hein, on doit pas exclure ceux qui ont le même mode de vie, on peut vivre ensemble, justement c'est ça la grande révolution que je veux instaurer, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen européen, français, s'il y a une aire d'accueil pour un mode de vie, c'est ouvert à tous, tout simplement, à condition de respecter le règlement intérieur, hein, parce qu'il faut toujours un règlement pour un stationnement. Par exemple les campings, on parle de camping, un camping... C'est l'article 416 du code pénal, je le fais ressortir assez souvent, un camping municipal ou privé, c'est ouvert à tous, avec le règlement intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifiquement au gadget, un terrain de camping, c'est ouvert aussi aux Français itinérants, qui sont comme nous, par exemple. J'aime plus dire gens du voyage, parce que ça me fatigue. Ça veut dire tellement de blagues avec ça. Alors, ben c'est ouvert à tous. Alors, c'est vrai que c'est révolutionnaire, ce que je dis, parce que c'est pas encore rentré dans la tête des gens, mais j'espère que ça va rentrer à la tête des gens, que, voilà, c'est un mode de vie, on peut vivre en camping-car, on peut vivre avec une caravane, il y a une aire d'accueil qui est ouverte à tous, et ben pas de raison. Au contraire, c'est même très bien que toi, qui es gadjo, que tu te mets à côté de toi, de moi avec ta caravane, et que moi, que je me mets à côté de toi, voilà, c'est bien, ça, quoi. C'est ouvert, à condition, naturellement, de vivre ensemble, hein. Faut me respecter et puis moi je te respecterai. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et on pourra avancer que dans ce sens-là. Sinon, ça n'avancera jamais, Jean. Tu comprends?
Je suis bien d'accord avec toi. Sinon, je ne ferai pas cette émission. Bah, voilà,
c'est le combat que je mène, c'est de vivre ensemble avec le respect des uns et des autres. Alors nous, on a un mode de vie qui nous est transmis depuis des siècles, hein, qu'est le voyage. Maintenant, ça arrange bien les gadgets parce qu'ils sont bien contents de prendre une caravane, partir en vacances avec. C'est nous qui avons fait cette mode de vie, qui a permis cette évolution de cette mode de vie. Maintenant, beaucoup de gadgets prennent des camping-cars. Comme tu disais tout à l'heure, les gadgets sont des fois plus voyageurs qu'un voyageur. Il y a des voyageurs que je connais, qui sont des gens de voyage, entre guillemets, qui ne voyagent plus. C'est-à-dire que tu prends, moi, je connais même des gadgets, ils avaient des appartements. Il a vendu l'appartement pour acheter un camping-car. Et ça serait un très beau camping-car. Et il dit, monsieur Delage, je suis beaucoup mieux maintenant avec mon camping-car. J'avais un appartement qui se trouvait à Cannes, justement. Il l'a vendu à l'époque, il a vendu 100 millions d'anciens francs. Mais je me suis acheté un très grand camping-car. Il dit, là, tous les ans, il fallait que j'aille au même endroit. Toujours à Cannes. J'en pouvais plus, il dit. Donc maintenant, j'ai mon camping-car. Je fais toute l'Europe. Je vais en Bretagne, et je voyage, j'ai mon appartement qui est roulant. Et c'est beaucoup plus mieux comme ça qu'il dit. Et il a raison, voilà. Donc ce mode de vie, il est respectable, et puis il peut être pratiqué par tout le monde. Hein. Mais il faut vivre ensemble pour ça. Donc après, il faut aussi se respecter les uns et les autres. Donc dans ce qu'on demande dans la proposition de loi, c'est que toutes les communes doivent faire une aire d'accueil. Et s'ils ne font pas cette aire d'accueil, bien qu'ils soient pénalisés aussi. Hein, voilà. Parce qu'on ne pouvait pas les pénaliser. Donc dans la future proposition de loi, normalement j'y crois. Parce que ça se passe aussi avec... on est consulté par M. Jean-Yves Lecomte, qui est le sénateur. Hein, et puis, lui, l'autre jour, il nous a auditionnés. Il a été très clair. Donc maintenant, s'il y a la suppression de la loi 69, il n'y aura plus de gens de voyage. Il dit, il y aura des Français itinérants. Eh bien d'accord, on est des Français itinérants. Aire d'accueil, ouvert à tout le monde.
Je voudrais revenir sur un point particulier, à savoir l'enseignement des enfants. Parce que, alors tu disais tout à l'heure, bon, il faut que les enfants soient reçus dans les écoles où on passe, et il y a, si j'ai bien compris, il y a un complément par cours de par correspondance. Mais j'ai été enfant, toi aussi, et pour me faire travailler en dehors de l'école, c'était pas facile. Alors comment ça se passe ?
C'est faux aussi que les parents forcent leurs enfants à remplir leurs cours par correspondance. Hein. Donc moi, j'ai mes petits-enfants qui le font et ma fille insiste là-dessus. Donc après, mais le primordial, c'est le primaire. C'est que les enfants déjà aussi vont à la maternelle. Hein, que ce, j'ai un petit fils là, qui a 4 ans, il va déjà à la maternelle, sa mère nommée, et qui comprennent que peu à peu, ils arrivent avec vivre avec les autres enfants. Et après, le primaire, pour qu'ils apprennent d'avoir savoir lire et écrire. Et une fois qu'on sait lire et écrire, quand on arrive à 10, 11, 12 ans, c'est gagné. Parce qu'après, c'est la suite de ça. Hein. Il faut savoir lire et écrire. Je parle comme ça parce que mon père était illettré. Mon père, à l'époque de nos grands-parents, ils n'allaient pas à l'école. Hein. Et il a tellement vu la difficulté de ne pas savoir lire, pas écrire, que mon père, même qu'il voyageait, qui était un grand voyageur, chaque commune de France, on n'avait pas toujours envie d'aller à l'école. Hein. C'était pas toujours. Puis on n'était pas. À l'époque, c'était le bohémien, on se faisait Romain Michel, on se faisait tous les noms. Mais bon, on était des merdeurs, hein, on ne sait pas faire. Hein. Il y avait toujours des petites frictions, mais c'était comme ça. Quoi, voilà. Et donc, nous, on ne voulait pas y aller, mais il avait raison de nous forcer. Puis je suis content qu'il nous a forcé à aller à l'école, à savoir lire et écrire. Et après, bon, j'étais jusqu'à l'école jusqu'à 11 ans. Bon, après, tu sais te démerder. Une fois que tu sais lire et écrire, c'est gagné, quoi. Voilà. Alors, après, c'est les études. Si tu veux faire des études, ça dépend des familles. Mais j'ai des mauvais exemples, moi, des gens qui ont été sédentaires et qui ont fait des études. Alors ils sont d'origine Montrouge, Sinti ou Yéniche, mais c'est pas discriminatoire ce que je veux dire, mais je le pense franchement, c'est qu'ils pensent trop comme les gadgets. Voilà, et ça j'aime pas.
Voilà, c'est parti.
Des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coudes.
Le gitan,
un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout.
Le gitan
que tu ne connais pas, il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts. Prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va. Il a des milliers de cousins.
Le gitan,
il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen.
Le gitan
que tu ne connais pas, souvent je deviens
gitan,
mon ciel c'est le sien,
gitan,
je suis comme lui,
gitan,
j'ai plus de pays,
gitan,
j'ai plus de maison,
gitan,
je n'ai plus de nom,
gitan,
c'est toi qui as raison,
gitan,
y a plein d'horizons.
toujours l'air heureux. Les chagrins, lui, n'en veut pas. Il les jette au milieu d'un feu.
Le gitan,
l'amitié n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il s'est coupé son cœur en deux.
Le gitan
que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien. Mais sa vie à lui, elle est dans ses bois. Souvent je deviens
gitan,
mon ciel c'est le sien
gitan.
Je suis comme lui
gitan.
J'ai plus de pays
gitan.
J'ai plus de maison
gitan.
Je n'ai plus de nom
gitan.
C'est toi qui as raison
gitan.
Y a plein d'horizons. Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis. Il a le cœur au bord des coups.
Le gitan,
un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout.
Le gitan
que tu ne connais pas. Il a le cœur au bord des coups. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout.
Le gitan
que je connais pour toi.
Je voudrais savoir justement ce que tu entends par là. Tu penses vraiment que les gens du voyage ne pensent pas comme les gadgets? Et alors moi, ce que j'aimerais, je veux bien l'admettre, mais je voudrais savoir quelle différence tu trouves.
La différence que je trouve, moi, c'est que, allez, on ne veut pas devenir avocat. On veut garder notre mode de vie. Parce que si tu deviens avocat, ou si tu deviens docteur, ou si tu viens faire un métier d'un sédentaire, bah t'es plus genre de voyage. T'as plus ta culture du voyage, toi.
Oui, mais tu disais qu'on pensait pas pareil.
Non, on pense pas pareil. On pense pas justement à ça, à devenir avocat, à devenir député. Alors, parce que tu perds tout ça, quoi. Tu perds cet esprit de famille, tu perds cet esprit du voyage. Toi, c'est ça mon inquiétude à moi, voilà. Et moi, j'en connais quelques-uns, je ne vais pas les citer, qui sont sédentaires, qui sont de vraiment nous. Et très peu pensent comme nous maintenant. Eux, pour eux, il faudrait sédentariser, que les enfants deviennent, entre guillemets, notaires, avocats, médecins, etc. Oui, mais si tu deviens comme ça, tu n'es plus genre du voyage. C'est ça, mon inquiétude. C'est ça. Alors, moi, c'est mon point de vue. Et puis, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Hein. Donc, il faut qu'on reste ce qu'on est, nous. Voilà. On peut vivre ensemble, continuer à apporter aussi une culture, la musique, tout ça. Mais rester ce qu'on est, nous. Pas aller trop loin. Il faut laisser ça aux autres, quoi. Chacun dans son domaine, comment dire. Hein.
Oui, non, mais moi, tu sais, j'ai jamais voyagé en roulotte, etc. Mais j'ai voyagé de ville en ville en faisant du théâtre. Et c'est vrai que le fait de, j'allais dire, de pas avoir de chez soi, fait qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, en fait.
Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir réussi un peu dans la vie, et donc mon père est décédé, et chez nous, on a là un très grand respect des morts. Hein. Je vais expliquer un peu mon cas. Mon père est décédé il y a une vingtaine d'années, oui, ça fera 20 ans cette année, et il a voulu être enterré avec ses frères dans une petite commune dans les Deux-Sèvres, à Mel exactement, hein, le pays de Ségolène Royal d'ailleurs. Et on n'avait pas de terrain, on n'avait rien. Alors avec mon frère, on a acheté un terrain agricole, pas très cher. Et moi, comme je suis une grande famille, je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants sur le voyage. Donc ça fait toujours beaucoup de caravanes, quoi. Donc sans prévenir le maire, on a acheté ce terrain agricole, on l'a aménagé avec l'eau, l'électricité, un terrain nu, hein, tout simplement. Et puis on est venu s'installer dessus. J'étais un peu plus loin, sans autorisation. J'ai fait une petite construction de 2 mètres carrés pour faire des toilettes. Hein. J'explique ça rapidement. Et le maire est venu. Il dit, monsieur, là, je vous dis, ouais, mon papa est décédé, on a besoin de stationnement, donc on a un mode de vie qui est différent, donc il faut absolument qu'on ait un terrain pour pouvoir stationner dessus. Alors, comme on n'avait rien, on a acheté ce terrain et puis on l'a aménagé. Il dit, oui, mais regardez ce que vous avez fait, là, vous avez fait une construction interdite. Je dis, monsieur, si je vous demande, vous m'aurez peut-être dit non. J'ai pris la responsabilité de faire cette petite construction, qui est une toilette, hein, de 2 mètres sur 2 mètres. Parce que si on n'a pas de toilette sur un terrain où on stationne, on va aller dans les champs et on mettra la spécule. Vous voyez ce que je veux dire, partout. Alors il vaut mieux qu'on ait... Oui, mais dit, bon, écoutez, monsieur, je vous comprends. Moi, vous ne me dérangez pas. Vous êtes des gens corrects. On connaît vos familles. On sait que vous êtes sérieux, tout ça. Bon, il dit, la prochaine fois, si vous voulez faire quelque chose sur votre terrain, ben, vous me demanderez et puis vous verrez. Je pense que je vous donnerai l'autorisation. Bon, je prends ça, là, je prends la proposition, je l'enregistre, il dit, bon, ben, si un jour je veux quelque chose, j'y demanderai. Et effectivement, 2-3 ans après, je dis, tiens, on va essayer de faire une petite construction familiale, quoi, pour que toutes les familles participent. Et on fait une petite maison de 60 mètres carrés, quoi. Et on lui a demandé l'autorisation, et effectivement, il nous a donné l'autorisation. Donc maintenant, on a ce petit terrain qui est à nous, qui nous a permet de au moment des Toussaint, des Rameaux, d'aller se recueillir et avoir un abri pour manger tous ensemble, quoi. C'est un terrain familial, quoi. Et donc, mais on s'y est pas sédentarisé pour ça. Voilà, c'est un terrain familial. On y va parce qu'on a le respect de nos morts et on y va au moment des Toussaint, des Rameaux, et puis voilà. Et sinon, c'est pour ça que la sédentarisation, nous, on est contre. Voilà.
Mais par contre, donc, comment ça se passe? Est-ce que en voyageant, tu as des circuits ou est-ce que tu vas au hasard? Et sans sédentarisation, mais il y a quand même des endroits où je suppose que tu restes plus de 3 ou 4 jours.
Non, mais c'est jamais, c'est toujours, parce que nous, comme dans toutes les familles qui sont avec nous, c'est des commerçants itinérants, donc il ne faut pas rester que 8 jours non plus. Donc notre, parce que on fait à peu près bien, souvent les métiers se retrouvent et puis on fait à peu près tous les mêmes métiers, plus ou moins. Et donc, comme on a pas stationné, mettons 15 jours, 3 semaines sur une commune ou sur une ville, c'est le maximum. Mais ça, c'est en période, je veux dire, d'été ou de printemps. C'est plus facile de. Mais l'hiver, c'est bien de rester un petit mois. L'hiver, on reste un mois à peu près. Hein. Et c'est pour ça qu'on choisit des grosses villes, parce qu'on peut plus travailler sur une grosse ville pendant un mois que si tu te mets par exemple à Volarzac, hein, par exemple. Comme on aura passé 8 jours, ça sera bien. Donc voilà, il faut trouver des grosses agglomérations. Après, si t'es à Lyon, si t'es à Marseille, si t'es à Lille, tu peux rester tant que tu veux, quoi. Donc il faut toujours s'organiser pour le stationnement. Et ça, on le fait, et c'est pour que les familles travaillent. Donc c'est que des familles de gens qui travaillent. Donc il faut rester un peu plus longtemps. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de ravalement, il y en a qui font de décapage, il y en a qui font des marchés. Donc il faut trouver le temps. Et puis des fois, tu es dans une région... Il faut trouver l'endroit pour travailler. Des fois, tu vas dans un côté, par exemple, une ville, tu vas au sud, ça, tu fais rien. Tu vas au nord, tu bricoles. Bon, tu rappres, mais ça demande 8 jours, des fois. Donc, tu peux pas partir tous les 8 jours. Il faut rester 15 jours par semaine.
Bah, écoute, Milo, le temps passe. Donc, je vais te poser une dernière question, à savoir, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aimerais répondre?
Oui, j'ai une question que tu ne m'as pas posée et j'aimerais répondre. C'est surtout liée à l'internement de ma famille. Voilà. Ma famille, comme tu dis, les bohémiens, ta grand-mère les appelait le bohémien, c'est qu'elle appelait mon grand-père bohémien. Et mon grand-père bohémien a été du côté de Rouen toute sa vie. C'était dans la Seine-Maritime, il avait voyagé dans ces régions-là. Et pendant la guerre, ils ont émigré. Ils sont venus sur le Mans, dans la Sarthe, hein. Et ils se sont mis à une petite commune qui s'appelle Saint-Pavas. Et là, ils sont tombés malheureusement en période de guerre sur un maire qui était raciste. Mais il était raciste ce maire, mais c'était sur l'ensemble des communes de France, parce que beaucoup de gens de voyage ont été internés arbitrairement. Et c'était le cas de mes grands-parents et mes parents. Donc ce maire a fait faire une pétition par les gens de la commune, a envoyé cette pétition au préfet, et le préfet a suivi le maire, et ils ont ramassé mes parents et grands-parents, en les amenant dans un camp, en disant, voilà, il est sous le régime de Vichy, vous ne pouvez plus voyager. Et ils les ont mis à Mulsanne, une petite commune à côté du Mans. Et de Mulsanne, ils les ont transférés à Montreuil-Bellay. Et ils ont fait 18 mois de détention d'une famille, hein, que mes grands-parents et mes parents, sur décision arbitraire d'un maire, 18 mois de camp de concentration. Et c'est pour ça que je n'ai pas jamais accepté ça de l'État français. Et je veux que ce soit reconnu. Comme quoi, qu'on a interné des citoyens français qui étaient... Mon grand-père était un film de la guerre de 14. En plus, à 20 ans, il s'est battu pour la France. Il avait pris un éclat d'obus. Et pour le remercier, eh ben, en 1941, ils l'ont interné, lui et sa famille, à Montreuil-Bellay. Et ça, c'était pas que ma famille et moi. Il y a eu des centaines de familles de gens du voyage qui ont été internés dans les camps, tout simplement parce qu'ils disaient, voilà, c'est des bohémiens, il ne faut plus les laisser circuler. D'ailleurs, il y a un très beau film, je pense que tu l'as vu, ce film, hein, Liberté. Ça, c'est l'histoire de beaucoup de familles de gens du voyage. Ça, on ne veut plus que ça se reproduise, quoi. Voilà. Et on veut que cette reconnaissance soit officielle. Normalement, on a fait une demande avec l'UFAT pour que ça soit reconnu officiellement par monsieur... le président de la République, j'espère qu'il va le faire cette année.
Eh bien, écoute, Milo, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on se reverra.
Hein. Oui, bien, sur les routes, certainement.
Eh bien, en tout cas, un grand, grand, grand merci.
Merci, merci. Là, tu as droit à tout le monde.
Eh bien, comme l'a si bien dit Milo, là, tu as droit à tous. Mais avant, je voudrais remercier Nico qui va monter cette émission. Et puis, je vais vous dire un petit poème de Félix Monget sur le générique de fin. Ce poème a pour titre « Le Rachaille ». Ce soir, le rachaille est passé nous voir. Chez nous, ces hommes disent des prières et servent Dieu. Plus encore, ils servent les hommes qu'ils n'oublient jamais. Chez nous, comme ailleurs, les prêtres, ils pardonnent des péchés. Ils font ça d'une manière pas ordinaire, te regardant droit dans l'œil et se taisant. Puis, ils restent à boire le môle du voyageur. Ils sont dans nos roulottes à raconter le vent, boire encore et pleurer le temps venu, au swing des guitares qui embrassent la lune à pleine bouche. Les rachailles sont de chez nous, curés manouches pour les monouches. Faits d'une même pâte avec eux, nous avons cuit au même four. Quand ils s'étranglent de colère ou de rire, les rachailles aiment rire. Prendre au feu la bonne viande, une ou deux saucisses sorties des braises. Comme nous, ils s'en lèchent les doigts jusqu'au fond de la gorge. Dieu était ainsi qui partageait ses repas avec les disciples. Ce soir, le rachaille est passé nous voir. Quand il est parti, il était gai dans la nuit comme nous l'étions aussi. Demain, ce sera baptême.